100 ans d'histoire. Innovation scientifique, relations internationales et succès culturel. Jean Saraméa, historien, raconte les années décennales anniversaires de 2024.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, un grand bond chronologiquement dans le passé. Que s'est-il passé et qui était vivant et déjà connu en 1624, donc il y a 4 siècles. En France, c'est le roi Louis XIII. C'est le fils d'Henri IV. Et il est devenu roi à la mort de son père en 1610. Il a 23 ans. Il n'est pas très assuré sur le plan politique, mais c'est cette année-là qu'il appelle Richelieu, comme on dirait Premier ministre de nos jours, même si ce n'était pas le titre de l'époque. Richelieu a 39 ans et, en plein accord avec le jeune Louis XIII, il a 3 buts. D'abord, sécuriser la France contre les appétits du Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire des Habsbourg d'Autriche, qui menacent la France par la frontière espagnole au sud et par tout le nord-est. La Bourgogne n'est pas encore française, ni l'Alsace, ni l'ensemble de la Lorraine, ni le Jura, qui fait partie de la Franche-Comté. Donc, la France n'a pas de frontière facilement défendable. La Savoie n'est pas française, c'est le duc de Savoie. Deuxième but, diminuer l'importance qui, avec Henri IV, avait été un petit peu stabilisée, de la religion protestante. Un petit peu pour des raisons religieuses, mais surtout parce que Henri IV avait accordé des places de sûreté aux protestants, c'est-à-dire un certain nombre de villes en France, et vu de Paris et vu de Richelieu, ce sont des territoires qui n'obéissent au roi que s'ils veulent bien. À partir de là, ça risque de provoquer un éclatement de l'État. Richelieu a un esprit quand même assez centralisé et favorable à un État plutôt fort. Donc, son but, il va s'y employer fortement, pensant au siège de La Rochelle quelques années plus tard, pour diminuer l'importance religieuse et surtout territoriale de la religion réformée protestante. Et puis, Richelieu s'aperçoit que les grands du royaume, qui sont souvent des féodaux dont la famille a des titres de haute noblesse depuis des siècles, les grands féodaux soit refusent de payer quoi que ce soit au roi, soit n'obéissent pas toujours sur le plan militaire, soit tout simplement gouvernent leur territoire de façon quasiment indépendante. Donc le but de Richelieu, ce sera de détruire ces grands féodaux et de raser leurs châteaux. Il va y avoir toute une série, sous Richelieu, de campagnes militaires dans toute la France de l'époque, en combattant les féodaux qui refusent de se soumettre au roi, en les tuant ou en les emprisonnant, et en rasant les châteaux. Si bien que quand on voit des châteaux démolis, on se dit « oui, depuis des siècles, le temps a fait son œuvre ». Non, non, ils ont été tout simplement démolis, c'était une façon d'affirmer le pouvoir royal. Et pour tout cela, Richelieu augmente rapidement les impôts. Bon, on a fait des calculs, si tant est que ce soit possible, les impôts ne dépassent pas 2% du PIB de la France de l'époque. Par rapport aux 45% actuels, encore c'est une fourchette basse, ça peut paraître extrêmement bas. Mais il faut dire que l'administration royale est balbutiante, et il n'y a pas les services publics que nous connaissons maintenant. Mais Richelieu va rapidement augmenter les impôts, ce qui va provoquer pas mal de révoltes rurales, entre autres la révolte des Croquants, en Normandie, dans le Poitou, en Quercy, à cause de la misère de zones rurales qui dépendent d'un climat, on est sous un climat très heurté. C'est la fin, si on peut dire, du petit âge glaciaire qui avait commencé au XIVe siècle et les paysans prennent de plein fouet chaque année des récoltes souvent extrêmement faibles et une vie d'une misère profonde. Autrement, cette année-là, la France se prépare à fonder Cayenne, c'est-à-dire la Guyane française. Et cette année-là, on ouvre à Paris le jardin des plantes pour accueillir des plantes, essayer de les adapter en provenance des différentes campagnes de prospection outre-mer. La France, par chance, est à peu près à l'écart des conflits, que ce soit sous Henri IV, sous Louis XIII. Mais se déroule depuis 1618 une guerre terrible dans toute l'Europe du centre-nord, c'est la guerre de 30 ans, entre tout simplement les États protestants et les États catholiques. Ça va ravager, mais alors ravager, ce qui correspond à l'Allemagne actuelle, et la France se tient en dehors, tout au moins son territoire n'est pas parmi les pays ravagés par cette guerre de 30 ans qui se terminera en 1648. Dans le domaine religieux, eh bien, en France, c'est Saint Vincent de Paul qui a 43 ans et qui va fonder un ordre religieux pour venir en aide aux plus misérables. Dans le domaine scientifique, cette année-là est créé le mot « gaz ». Cette année-là est inventée la chaîne d'Arpenteur. Et un mathématicien anglais invente les logarithmes. Toujours dans le domaine scientifique, William Harvey, qui a 46 ans, est en train de comprendre la circulation du sang. C'est un anglais. Et l'immense astronome Kepler, à 53 ans, est en train de rédiger les lois sur les planètes du système solaire. Dans le domaine littéraire, alors, Molière a 2 ans, donc évidemment, il n'est pas encore opérationnel. Pascal, le grand écrivain, philosophe, etc., n'a qu'un an. Corneille a 18 ans. Il fait des études de droit à Rouen pour être avocat. Il n'a pas encore écrit de pièce célèbre. La Fontaine a 3 ans. Et Madame de Sévigné n'est pas encore de ce monde. Donc les grands noms du XVIIe siècle, même si 1624 nous sommes au XVIIe siècle, ne sont pas encore aptes à écrire et à être connus. Descartes, notre grand philosophe rationnel ou rationaliste, a 28 ans. Il voyage. Il voyage en Italie cette année-là. Il écrira beaucoup, mais plus tard. Dans le domaine de l'architecture, Mansart, grand architecte du XVIIe, a 26 ans. Il commence à s'exercer, si on peut dire, et l'architecte Le Mercier est en train de construire la première coupole qui va être réalisée en France, qui est toujours debout, c'est la chapelle de la Sorbonne. Dans le domaine religieux, puisque la Sorbonne est dans le domaine religieux à l'époque, le pape a 56 ans, c'est Urbain VIII, et il va, 2 ans plus tard, consacrer la toute neuve basilique Saint-Pierre de Rome, et il est en train de faire construire Castel Gandolfo, à proximité de la ville qui est le lieu de repos, disons, avec de très beaux jardins, des papes. Dans le domaine de la peinture, alors il y a de grands noms, Bruegel à Bruxelles, 56 ans, qui n'a plus qu'un an à vivre, mais qui est très connu, le graveur Jacques Callot, qui a 32 ans, qui va être célèbre dans toute l'Europe, qui va graver des estampes, mais pas seulement, sur les drames de la guerre de 30 ans, qu'il observe au nord-est de la France. Van Dyck, à 25 ans, et il peint. Rembrandt, à 18 ans, et Rembrandt ouvre cette année-là son atelier. Georges de la Tour, à 31 ans, et commence à se faire un grand nom. Nicolas Poussin, à 30 ans, et est déjà bien connu comme le peintre Le Lorrain, qui a 24 ans. Donc, des grands noms du XVIIe siècle qui peignent. Autrement, ben, deux grands noms, un proche de la France et qui est très exposé à Versailles, c'est Rubens. Rubens a 47 ans et Velázquez également pour l'Espagne. Autrement, le grand architecte italien, c'est Le Bernin, Bernini, qui cette année-là, il a 26 ans, réalise ce qu'on peut toujours voir, le grand baldaquin de bronze à Saint-Pierre de Rome. Voilà. Quelques grands noms de l'époque, j'en oublie volontairement pour ne pas faire une liste trop pénible à écouter. Dans le domaine économique, la France est toujours le pays le plus peuplé d'Europe, 20 millions d'habitants. C'est la première puissance européenne, y compris sur le plan économique, mais disons qu'il ne s'intéresse pas à une expansion par-delà l'Atlantique. Bon, depuis 1608, on est installé à Québec, mais ce n'est absolument pas considéré comme un enjeu. C'est l'époque des coureurs des bois qui rapportent quelques fourrures à la cour de France, mais disons que la Sibérie russe fait aussi bien, et la Russie exporte elle aussi. On n'est pas encore, il s'en faut de 11 ans, installé en Martinique et en Guadeloupe, ce sera bien plus tard. Mais néanmoins, la France a gagné des territoires récemment. Henri IV a apporté au royaume de France les actuels départements 64, 65 et 09, c'est-à-dire le Béarn, la Navarre, d'où roi de France et de Navarre, un tout petit territoire au nord des Pyrénées, la Bigorre, 65, et le comté de Foix, donc l'Ariège. Par contre, comme je l'ai dit, l'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté, le Vaucluse, le comté de Nice et la Savoie ne sont pas français. Donc le territoire français est loin d'être proche du territoire tel que nous le connaissons à l'heure actuelle. Alors, dans le domaine littéraire, en dehors d'un ou deux, ce sont des noms que l'on a bien oubliés. Agrippa d'Aubigné, qui est vraiment un grand poète, soldat, protestant, et il se réfugie à Genève, il a 72 ans, il est connu par les tragiques, bon, on ne le fait plus ni apprendre ni réciter à l'heure actuelle, mais c'est un grand nom de l'époque. Malherbe a 69 ans, j'ai toujours en mémoire la célèbre phrase « Enfin Malherbe vint », parce que c'est lui qui va codifier le français classique, comme une langue épurée de toutes ces formules datant du Moyen-Âge. Et c'est lui qui va codifier la poésie classique. Les rimes, la césure à l'hémistiche, etc. Voilà. Or, on lisait un petit peu avant les consolations à M. Dupérier. Bon. Autrement, il y a les poètes libertins. Oh, il faut qu'ils soient protégés, parce que les poètes libertins qui composent des poèmes sympathiques quand on les relit sur la nature, sur des odes à des sentiments variés, la solitude, etc. Il faut qu'ils soient protégés, parce que les libertins ont une vie très débridée et ils rejettent en général la religion, ce qui à l'époque vous envoie au bûcher. Et le poète Vanini a été brûlé à Toulouse en 1619. Théophile de Viau, qui va être, il a 34 ans, le chef de file des libertins, doit être protégé et même sauvé du bûcher par le duc de Luynes, tellement, disons, c'est sulfureux. Voilà. Autrement, c'est l'époque des précieux et des précieuses. C'est le poète Voiture, qui a 27 ans, qui fait des rondeaux, des stances, des sonnets. Bon, là aussi, on ne le lit quasiment plus. À l'époque, alors, on lit avec passion les romans d'aventure d'Honoré d'Urfé, qui n'a plus qu'un an à vivre, qui était célèbre entre Saint-Étienne, Lyon et Montbrison, dans la plaine du Forez. Il est en train de terminer ses romans sur l'Astrée, sur les bords du Lignon, dans le Forez. C'est très, très lu à l'époque. Très, très lu à l'époque. De nos jours, bon, il reste quelques descriptions, disons, aimables. Après, si l'on prend des anthologies, on a évidemment une bonne dizaine de poètes qui étaient connus à l'époque, mais dont on a totalement oublié les noms. Alors, terminons par la musique. Alors, en France, il y a peu de musiciens connus. C'est Louis XIV qui, bien plus tard, s'attachera pour sa gloire personnelle des musiciens en général venus d'Italie et qui deviendront célèbres. Le seul poète, compositeur d'opéra, c'est le précurseur de l'opéra, qui écrit surtout des petites chansons, des scherzi, pluriel de scherzo, qui est maître de chapelle à Saint-Marc à Venise, mais qu'on joue dans toute l'Europe, c'est Claudio Monteverdi. Monteverdi. Voilà, il a 57 ans. Il va vivre encore longtemps. Alors, si on peut retrouver une canzonetta ou un très court morceau de Monteverdi pour non pas se remémorer, quoique, en tant que précurseur de l'opéra, il y a quand même des concerts avec des morceaux de Monteverdi encore de nos jours. Voilà. Merci de votre écoute.